écouter les lectures, nous prions avec ces paroles du réformateur Théodore de Bèze. Viens m'inspirer, Seigneur, dans ta bonté. Laisse-moi toujours marcher dans la droiture, sans convoiter richesse ou vanité. Prends dans mon cœur la place qui t'est due. Je veux chercher ta seule vérité et ne jamais en détourner ma vue. Amen. Nous écoutons la première lecture pour ce dimanche dans 1 Samuel 3.
Donc 1 Samuel chapitre 3, des versets 1 à 19. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit : Me voici. Et il courut vers Élie et dit : Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit : Oh, je te vois appelé, retourne te coucher. Et il retourna se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva. Courut vers Élie et dit : Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit : Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit : Me voici car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel : Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras : Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois : Samuel, Samuel. Et Samuel répondit : Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel : Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison en perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et lui dit : Samuel, mon fils. Et il répondit : Me voici. Et Élie dit : Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit : C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bien. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles.
Alors, si nous voulons écouter comme Samuel, nous pouvons chanter ce cantique 230, « Oh, parle-moi, Seigneur ». Et nous écoutons l'épître pour ce dimanche dans 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20.
Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai, moi, asservir par aucune. Les viandes pour l'estomac et l'estomac pour les viandes, mais Dieu mettra à néant et celui-ci et celle-là. Or, le corps n'est pas pour l'impureté, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mon Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous a ressuscités par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Qu'ainsi n'advienne! Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? Que les deux, dit-il, seront une seule chair? Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'impureté. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Alors, glorifiez Dieu, donc on va chanter 823, gloire à Dieu. D'écouter le psaume 40, j'ai déjà lu hier, mais voilà, c'est le texte de la prédication. Je le lis dans la traduction de Madame Lardon, une femme de pasteur. Psaume 40, recueil du chef de chœur, psaume de David. J'ai jeté l'ancre vers le Seigneur, à lui, de tout mon cœur, je me suis attendu. Il s'est penché vers moi, il a perçu mon cri et il m'a répondu. Oui, Dieu m'a repêché des tourbillons du gouffre où mon cœur se noyait, de la vase et la boue où ma vie s'enlisait. Il m'a fait remonter, il m'a remis debout les pieds sur le rocher. Et il me réapprend à marcher sans tomber. Il fait chanter en moi un recommencement qui crie « Merci, mon Dieu !» Bien des gens le verront et seront remplis de respect pour ce Dieu et compteront sur lui. Heureux tout être humain qui, pour devenir fort, met en lui sa confiance, au lieu de rechercher l'appui de la violence, des marchands d'illusions et de belles promesses. Mon Seigneur et mon Dieu, qui sont grands et nombreux, les miracles et projets que tu as faits pour nous. Ton génie est unique pour mettre tout en place. Je voudrais l'annoncer, le raconter à tous, mais il y en aurait trop. Ce que tu veux n'est ni sacrifice ni offrande, non. Mais tu m'as donné des oreilles pour t'entendre. Tu ne demandes ni holocauste ni victime pour prix de ton pardon. Alors j'ai dit, c'est moi qui viens avec toute ma personne et avec le rouleau du livre écrit pour moi. Mon Dieu, je prends plaisir à faire tes délices, ta volonté et ton enseignement, la loi que tu m'indiques est là au fond de moi, au centre de mon être, au cœur de mes entrailles. Des épreuves sans nombre m'environnent. Mes fautes m'assaillent et me submergent, plus nombreuses que les cheveux de ma tête. Mon courage m'abandonne. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, vite à mon aide. Honte et déshonneur à ceux, aux personnes, aux choses, aux événements, qui cherchent mon âme pour la perdre, qui reculent, ceux qui se plaisent à mon malheur, qui deviennent muets et ceux qui ricanent à mon sujet. Qu'ils chantent de joie à cause de toi, tous ceux qui te cherchent, qu'ils disent sans cesse, le Seigneur est grand, ceux qui t'aiment, toi le Sauveur. Moi, je suis pauvre et démuni, sujet à la souffrance. Mais le Seigneur prend en compte cette réalité. Toi, tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Ce psaume commence par l'affirmation forte du verset 2, j'ai espéré vraiment le Seigneur. Cette façon de conjuguer le verbe espérer est rare en hébreu. Parce qu'il ne dit pas je me suis attendu au Seigneur, il dit j'ai attendu le Seigneur lui-même. C'est sa présence que j'ai espéré, je l'ai espéré vraiment. Derrière ces mots, une espérance persévérante est exprimée. Mais à certains moments, cette espérance sur le long terme est attendue quand même dans l'immédiat. Parce que le dernier mot du psaume, c'est « ne tarde pas ». Et cette espérance n'a pas été déçue. Parce qu'au verset 2 aussi, il est dit « le Seigneur s'est penché vers moi ». S'est penché vers moi et a écouté mon cri. Et Dieu non seulement a exaucé, mais il s'est penché pour exaucer. C'est une manière de dire que le Seigneur a exprimé beaucoup de tendresse dans cette réponse, dans cet exaucement. Il a accompagné cet exaucement d'une expérience de sa tendresse paternelle, du Seigneur Dieu. Très bien illustré dans le tableau du fils prodigue qui se trouve à Lénine, à Saint-Pétersbourg. On voit le fils prodigue à genoux, mais qui met sa tête sur le ventre du Père, et le Père se penche vers lui. Dieu se penche vers nous comme un père se penche vers son enfant. Cette espérance, donc, qui est ici exaucée, et qui a été vécu longtemps, qui est toujours encore vécu par les peuples de Dieu. Les prophètes nous l'ont exprimé aussi. Quand il n'y avait pas d'espoir, ils ont gardé ça, cette espérance. Voyez par exemple Jérémie. Il dit, le Seigneur est bon pour ceux qui l'espèrent. Lamentations 3, 25. Bien, Ésaïe 8, 17. J'espère dans le Seigneur, qui cache actuellement sa face à la famille de Jacob. Oui, j'espère en lui. Jérémie et Ésaïe vivaient des périodes vraiment sombres de l'histoire d'Israël. La guerre était à la porte, elle est arrivée finalement à l'intérieur de Jérusalem, mais ils ont toujours continué à enseigner l'espérance. Israël ainsi a appris à espérer dans le Seigneur à travers toutes ses détresses. Et quand viendra la délivrance finale, Israël pourra dire, comme c'est marqué dans Ésaïe 25, verset 9, on dira ce jour-là, voici notre Dieu, c'est celui en qui nous avons espéré, celui-là nous délivre. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Exultons et jubilons dans son salut. Nous avons dans l'Évangile un événement où deux femmes, Marthe et Marie, ont appris à espérer lorsque tout espoir était fini. Le frère Lazare était mourant et finalement il a été enterré parce que Jésus a tardé à venir. Et lorsque Jésus arrive, Marthe et Marie vont découvrir qu'il n'est pas vain d'espérer encore dans le Seigneur. Marthe reçoit avant que Lazare soit ressuscité et reçoit cette révélation inouïe que Jésus est déjà aujourd'hui dans le temps actuel, la résurrection et la vie. Jean 11, 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, pas seulement au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même si éventuellement il meurt, vivra. Alors il s'approche du tombeau et puis Marthe, tout d'un coup, lui signale que le corps est déjà en putréfaction. Alors Jésus lui dit, encore, il lui dit quelque chose, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, verset 40. Si Israël est porteur d'une telle espérance tout au long de son histoire, c'est parce qu'il a expérimenté une délivrance inouïe à l'origine même de son histoire. Cette délivrance inouïe l'a alors constitué comme peuple de Dieu. Il s'agit de la Pâque, la sortie d'Égypte et la délivrance à travers la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge est évoquée au verset 3 du psaume. Il m'a remonté d'un trou de tumulte, de la boue, d'un marais, et m'a mis les pieds sur un rocher. Cette délivrance défie toutes les lois de la nature et de la création. Le Seigneur Dieu d'Israël s'est révélé sauveur en se révélant créateur. Étant créateur, le seul créateur, d'ailleurs, il peut se révéler sauveur en toutes circonstances. Marthe et Marie l'ont aussi expérimenté quand Jésus a ressuscité Lazare. Il a recréé la vie dans un cadavre. À Pâques aussi, les disciples ont expérimenté une création qui fut pour eux le salut. Jésus est mort et ressuscité. Expérimenter le miracle de la Pâque, c'est le début de la foi en Jésus. Le miracle de la Pâque, c'est passer de la mort à la vie. Il y aura une dernière Pâque qui concernera le monde entier. Nous voyons ça dans Apocalypse 21, verset 1. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'est plus. Cette dernière phrase, la mer n'est plus, fait allusion à la traversée de la mer Rouge Ils ont pu regarder en arrière et ils ont pu entonner un chant nouveau. Ce chant nouveau, le psaume en parle au verset 4. Le Seigneur a donné dans ma bouche un chant nouveau, un chant de gloire pour notre Dieu. Ils seront beaucoup à voir et à avoir peur et ils auront confiance dans le Seigneur. Chaque fois que les psaumes parlent d'un chant nouveau, il s'agit d'un chant qui sera aussi entonné dans le royaume de Dieu, à la délivrance finale. Beaucoup de délivrances actuelles sont des anticipations de cette délivrance finale. Elles remplissent de crainte ceux qui les voient et leur font rendre gloire à Dieu. Ces délivrances sont tellement nombreuses qu'on ne peut même pas les compter. Les miracles et les pensées de Dieu sont en permanence le fondement de la création et de l'histoire humaine. Les miracles de Jésus sont tellement nombreux qu'on ne pourrait pas tous les écrire. Nous trouvons cette affirmation à la fin de l'évangile de Jean. C'est le dernier verset, Jean 21, 25. Il faut une autre création pour que soient écrits tous les miracles de Jésus. Le monde actuel ne peut contenir tous les témoignages des miracles opérés par Jésus si on devait les écrire. Je n'ai pas fini, je suis au milieu là. Alors je propose une petite pause musicale ou silencieuse. Au verset 7, notre psaume conteste la nécessité des sacrifices. Pourtant, ils ont été ordonnés dans la Torah par le Seigneur Dieu. Mais, justement, dans le récit de la vie de Samuel, nous trouvons ce verset que l'écoute vaut mieux que les sacrifices. Ça se trouve dans 1 Samuel 15, 22. L'écoute vaut mieux que les sacrifices. Donc on a aussi ces textes-là qui relativisent les sacrifices, qui sont juste des aides pour la foi, mais l'écoute est beaucoup plus nécessaire. Alors, je relis les versets 7 à 9. Sacrifice et offrande, tu n'as pas désiré. Les oreilles, tu m'as creusé. Tu m'as creusé les oreilles. Holocauste et expiation, tu n'as pas demandé. Alors j'ai dit, vois, je viens, au rouleau du livre, il est écrit sur moi, faire ta volonté, mon Dieu, j'ai désiré. Et ta Torah, ton enseignement, est en plein dans mes entrailles. C'est la traduction littérale à partir de l'hébreu. Ce verset est appliqué dans le Nouveau Testament à Jésus. Nous voyons donc que Jésus avait une faculté particulière d'écoute. Il écoute toujours son Père, dit-il. Et il nous transmet cette faculté d'écouter le Père. Dans l'Épître aux Hébreux, où ce texte est cité, le verset 7 est traduit complètement différemment. Hébreux 10, verset 5. Tu m'as façonné un corps. Au lieu des oreilles, tu m'as creusé. En hébreu, les oreilles, tu m'as creusé. Dans la traduction grecque qui existait à l'époque de Jésus, c'est traduit autrement. Tu m'as façonné un corps. La parole que nous devons écouter, c'est la parole qui a un corps. C'est par le corps de Jésus que nous recevons des oreilles pour entendre Dieu notre Père. C'est pour cela que la Sainte Cène est importante. Et l'Épître aux Hébreux nous explique que c'est son corps que Jésus a offert en sacrifice pour nous éternellement. Et qu'il est entré avec ce sacrifice dans la présence de Dieu pour nous, pour toujours. De son corps, voilà ce que Jésus dit dans Jean 6, verset 53, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. » Cette parole a fait que beaucoup de disciples l'ont quitté, parce qu'ils n'avaient pas les oreilles pour entendre une telle affirmation. Quand le Seigneur dit cette parole, il veut créer en nous, par son esprit, les oreilles pour entendre cette parole, car c'est spirituellement, par l'Esprit Saint, qu'on la comprend. De la même façon qu'il a pu parler à Lazare, qui était enterré déjà depuis 4 jours, il parle à ce cadavre, il dit « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Donc c'est que Lazare a reçu des oreilles pour entendre alors qu'il était mort. Nous trouvons ça déjà dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, chapitre 37. Le prophète Ézéchiel reçoit un ordre du Saint-Esprit de parler à des ossements, à des squelettes. Il obéit, il parle, il annonce la parole de Dieu et les ossements obéissent. Ils ont des oreilles pour entendre. Ça reconstitue un peuple. Ça vous trouvez dans Ézéchiel 37. La parole de Dieu faite chair, lorsqu'elle est proclamée, crée les oreilles pour que même les morts entendent. Devant une telle espérance, il serait criminel de se taire aujourd'hui. Si vraiment nous avons cet évangile au fond de nos entrailles, il va venir sur nos lèvres. C'est pourquoi le psalmiste dit au verset 10, « J'évangélise la justice dans la grande assemblée. Vois mes lèvres, je ne fermerai pas, Seigneur, toi tu le sais. » Oui, le mot « évangéliser » est là au verset 10. Il est dans l'hébreu, déjà dans l'Ancien Testament, le verbe « évangéliser ». Il évangélise la justice, c'est-à-dire il l'annonce aux autres. Nos lèvres expriment ce que nous avons dans les tripes. Paul dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Intéressant que confession de la bouche, parce qu'on a cru dans le cœur. Que cette parole ne descend pas dans le cerveau, mais dans le cœur, dans nos entrailles. Et nos lèvres l'expriment. La suite du psaume est beaucoup moins réjouissante. Le psalmiste dit qu'il ne peut même pas voir ses péchés parce qu'il en a plus que de cheveux sur la tête. Je ne pense pas qu'il était chauve, et qu'il avait beaucoup de cheveux, mais il a encore plus de péchés. Alors le courage l'abandonne. Au verset 13, il dit « Mon cœur m'a abandonné ». Alors que fait-il? Il se laisse aller au désespoir? Non. Il compte encore plus sur le Seigneur. Il ne fuit pas à Dieu devant cette constatation déprimante. Il va encore plus compter sur le Seigneur. Et lui dit au verset 14, « Accepte, Seigneur, de me secourir. Seigneur, à l'aide, vite. » Et comme d'habitude, quand quelqu'un est coupable ou se sent coupable, il y en a beaucoup qui se moquent en plus de lui. Et ça rend la chose encore plus terrible à supporter. Les jugements deviennent humiliants, se rajoutent. Nous voyons ça au verset 15 et 16. Et le psalmiste se reconnaît pauvre et misérable, verset 18. Il compte encore plus sur le Seigneur, en espérant qu'ainsi la honte du Seigneur la fera changer de côté. Et bien là, nous avons une prophétie aussi de Jésus, encore une fois. Jésus crucifié sous les moqueries a été considéré comme pécheur et coupable par la foule. Il y aura un renversement de cette opinion des foules. Ésaïe le prophétise dans le chapitre 53. Il était méprisé et en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous l'estimions frappé par Dieu et humilié, mais lui était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Voilà, ça c'est Ésaïe 53, versets 3 à 5. La honte change de côté, mais en même temps, elle est accompagnée d'une très grande joie, la joie de se savoir pardonné. La grâce du Dieu créateur et sauveur n'est pas une déclaration en l'air, elle a un fondement réel dans la chair humaine, elle existe en l'écoute de la parole divine faite chair, et cette parole que nous devons écouter est une personne, elle porte un nom, Jésus, fils de David, fils de Dieu. Amen.